Si vous avez loupé les précédents épisodes de Destin de Légende, vous pouvez les écouter avant d'entamer celui-ci. Pour les autres, votre épisode inédit commence maintenant. Dans le monde du sport, on dit souvent que le plus dur n'est pas de gagner le titre le plus convoité, mais de rester le numéro 1 pour devenir le roi. Michael doit être seul, mais c'est mal connaître Joseph qui est de retour et qui a un dernier projet réunissant ses enfants pour une dernière victoire en équipe.
On est très heureux d'en faire partie, tout ça représente énormément pour nous, on invite tout le monde à voir ce show.
Cette tournée signifie que nous sommes de retour, une fois de plus, qu'on est très unis. On est vraiment proches les uns des autres, et on va montrer au monde qu'on peut tous vous rendre heureux.
Contrairement à Randy et Marlon qui sont très heureux de se retrouver, l'interprète de Thriller est loin d'être emballé et refuse de participer au projet, celui de réaliser un nouvel album avec ses frères. Joe Jackson sort alors sa carte maîtresse et demande l'aide de sa femme pour convaincre la star du groupe. Ce dernier finit par accepter, mais à contre-cœur. Ce projet qui va réunir une fois de plus les frères Jackson s'appelle Victory. Qu'est-ce qu'on retient de cet album, Isabelle ?
L'album Victory est édité en 1984 et c'est d'ailleurs le seul album qui va réunir les six frères. Parmi les perles de cet album, on trouve évidemment le titre State of Shock qui avait été enregistré en démo avec Freddie Mercury au cours d'une brève collaboration et qui finalement sera finalisé avec Mick Jagger. Mais enfin pour autant, il est créé dans un contexte de tension qui apparaissent pendant l'album ou en tout cas qui se renforcent pendant la création de l'album, qui n'auront de cesse de s'accroître. Ce qui fait que c'est un disque qui est vraiment teinté d'individualité, comme on dit, et sur lequel chaque frère chante indépendamment dans un titre.
Vous parlez d'individualité dans un album de groupe, c'est pas très rassurant finalement. À quoi ressemble Victory ? Et est-ce que Michael, qui était sceptique au départ, est satisfait du résultat ?
Cet album Victory est teinté de soul, de funk, de rock, il est vraiment dans l'air du temps. Et il va donner son nom à la tournée qui aurait dû normalement s'appeler The Final Curtain pour bien marquer la fin de la collaboration familiale. Pour autant, comme à chaque fois que Michael s'engage dans quelque chose, il va aller au bout, il va y mettre toutes ses tripes et toute son énergie. Pas question de bâcler parce qu'il n'a pas envie. Mais ça l'empêchera pas de dire au final qu'il a été déçu du résultat, qu'il aurait aimé que ce soit vraiment encore mieux et qu'il regrette parce qu'il trouve qu'il n'a pas eu assez de temps pour se préparer et pour vraiment peaufiner toutes les idées qu'il avait.
Bon, ok, on a bien compris que l'élaboration de cet album était une fausse bonne idée, mais peut-être que la tournée va permettre de finir cette aventure sur une bonne note. Comment est l'ambiance en coulisses ?
Michael n'a pas vraiment envie de faire cette tournée, mais devant l'insistance de ses frères, il va quand même céder. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, aucune chanson de l'album ne va être chantée sur scène. L'ambiance en coulisses décline, il n'est plus question quasiment que d'argent, d'une sorte de rente pour que chacun puisse vivre, éventuellement prendre sa retraite artistique s'il le souhaite. Michael, lui, a d'autres projets en cours et à venir, et sa fusée, elle va continuer à monter toujours plus haut pour, on peut le dire, conquérir d'autres galaxies.
Cette aventure familiale se finit sur une note amère, mais on le sait, les relations entre Michael et sa famille ont toujours été plus ou moins compliquées, surtout depuis la sortie d'Off the Wall. Et ça se ressent sur Victory, l'album se vend à 4 millions d'exemplaires, c'est un très bon score, mais on ne peut pas dire que ce soit une réussite sur le plan artistique. L'album est loin de satisfaire les médias, d'autant plus qu'entre Thriller et Victory, une partie du public commence à se lasser de l'omniprésence du leader des Jackson. Le 9 décembre 1984, les cinq frères donnent leur dernier concert. Michael en profite pour avertir le public présent. Ceci est notre tournée d'adieu. C'est ce qu'il dira pour clôturer le show. Au terme du Victory Tour, 75 millions de dollars seront récoltés. Michael les versera à des œuvres caritatives. Michael Jackson est un artiste engagé dans l'humanitaire, on le sait. Il a donné plusieurs millions à des œuvres caritatives au cours de sa vie. Et il est à l'origine d'un titre que tout le monde connaît, We Are The World. Comment ce titre est né ?
En novembre 84, Bob Geldof lance le titre caritatif et collectif Do They Know It's Christmas. Cette chanson est interprétée par les plus grands artistes anglais. Et face au succès remporté, on va décalquer ce projet à l'échelle américaine et donc internationale. Michael Jackson et Quincy Jones vont se retrouver aux commandes et Quincy va demander à Michael de s'associer à Lionel Richie pour écrire une chanson pour les enfants qui meurent de faim. Bon, Michael Jackson est fatigué, il en a un petit peu assez, mais il va se laisser convaincre et finir par accepter. L'enjeu caritatif, humanitaire est beaucoup trop important. En tout cas, Michael et Lionel Richie apporteront chacun leur contribution à la musique et c'est vrai que lorsqu'on compare cette chanson avec les autres titres charismatiques ultérieurs de Michael, je pense en particulier à Heal the World, je pense qu'on reconnaît vraiment immanquablement sa patte créative.
Entre ces deux albums, Michael est très présent médiatiquement à cette époque. Comment va-t-il gérer l'après-Victory ?
Après la période agitée de Victory, Michael va prendre ses distances, se faire discret. Ce faisant, il va vraiment creuser encore davantage le gouffre des relations familiales. Mais le fait est qu'il est en création. Et quand Michael crée, comme beaucoup d'artistes, il s'isole.
Michael n'avait pas de limite. Il voyait les choses en 10 fois plus grand que n'importe qui. L'album Off The Wall a été un gros succès. Et quand après ça, il a dit aux gens qu'il voulait faire un album qui se vendrait 2 fois plus, personne ne l'a cru. Et pourtant, il l'a fait. Et avec Bad, il s'est dit, ok, je vais remettre ça.
Il est prêt à remettre ça, mais pas avec n'importe qui. Et j'ai envie de dire, jamais 203, puisqu'il repart avec Quincy Jones dans cette nouvelle aventure. Avec pour objectif, tenez-vous bien, de dépasser les ventes colossales de Thriller. Michael inscrit même l'objectif de 100 millions d'albums vendus sur le miroir de sa salle de bain. Et pour y arriver, les deux hommes travaillent tout en se tenant au courant de ce qui se passe sur la scène musicale du moment. Et au milieu des années 80, on assiste à l'émergence de la culture hip-hop. Les textes et les atmosphères y sont sombres et parfois violentes, et le numérique s'impose également dans le domaine de la musique. Le producteur et son protégé vont s'en servir à bon escient, afin de proposer un disque bien différent de Thriller. Un de ses proches lui avait conseillé de faire un album de reprise pour lui éviter la pression de l'après-Thriller. Mais c'était mal connaître Michael qui part avec un projet inédit, Bad, aura la lourde tâche de succéder à l'album le plus vendu de tous les temps. Quelle est la stratégie de Michael à cette époque pour faire aussi bien que son album précédent ?
Au moment où l'on enregistre Bad, où on prépare ce projet, beaucoup de pression plane sur Michael. Et d'ailleurs, il se la met lui-même. Il a vraiment l'intention de concurrencer Thriller, voire encore une fois, de faire mieux. De nombreuses maquettes vont être écoutées. On parle de 70 maquettes, de 70 démos, parmi lesquelles il va falloir choisir uniquement 11 titres. Parmi ces 11 titres, 9 vont être signés par Michael. Il va vraiment avoir une place créatrice beaucoup plus grande sur celui-ci. Des featurings vont être annoncés, puis finalement mis de côté. Bad, qui aurait dû être un duo avec Prince. I Just Can't Stop Loving You, qui aurait dû être un duo avec Barbara Streisand, puis avec Whitney Houston. Les deux vont finalement refuser, ce sera Syeda Garrett. En tout cas, Michael met la barre haute. Il veut absolument que cet album fonctionne. Et la particularité va être vraiment l'accent qui est mis sur ces capsules cinématiques que seront ces vidéos, ces mini-films qui vont accompagner les chansons et qui vont vraiment plonger l'auditeur et le spectateur dans un univers parallèle à celui de la chanson, un univers sonore, un univers théâtral, un univers fantastique qui montre à quel point Michael a une imagination, une capacité créative débordante.
C'est une fois de plus un projet colossal. Et la sortie prochaine du nouvel album de l'homme ganté devrait logiquement susciter le maximum d'intérêt du côté des médias. Mais c'est plutôt la vie privée de l'artiste qui intrigue les journalistes du monde entier à cette époque. Comment se fait-il qu'il change autant physiquement ? Pourquoi dort-il dans un caisson à oxygène ? Autant de questions et d'accusations en tout genre sortent quotidiennement dans la presse à son sujet. Michael a même un nouveau surnom, Wacko Jacko, qu'on pourrait traduire par Jack le Fou. Un jeu malsain commence alors entre l'interprète de Thriller et les médias. Lui joue de son image et eux suivent et contribuent à relayer les rumeurs les plus folles à son encontre. Si en 1983, l'ex-leader des Jackson était un génie, 3 ans plus tard, il est désormais présenté comme un homme déconnecté du monde réel, aux lubies étranges. Une image qui lui collera à la peau jusqu'à la fin de sa vie.
La plupart des gens ne dorment pas dans une chambre à oxygène ou ne sortent pas au public couverts d'un masque pour cacher leur chirurgie esthétique. Michael Jackson a été plus retouché que la statue de la liberté. C'était pas tout le monde qui essaye d'acheter les os d'Elephant Man et qui voyage avec un chimpanzé de compagnie.
Quand on pense à Michael Jackson, la première chose qui nous vient à l'esprit aujourd'hui, c'est toutes ces excentricités qui ont éclipsé sa musique et son art. Vous ne vous dites jamais « Wow, quel grand artiste » ou « Quel showman », mais vous vous dites « Ce gars est vraiment bizarre ».
Cet extrait d'un reportage diffusé à la télévision américaine reflète bien ce qu'on pouvait entendre à propos de Michael à cette époque. Comment et pourquoi on assiste à un changement d'opinion du côté des médias à l'égard du futur roi de la pop ?
Dans le même temps, la relation de Michael avec les médias se détériore. Il prend ses distances, il n'a jamais été très présent dans les médias, il a toujours voulu communiquer avec parcimonie, il a toujours eu peur d'être trop présent et de devenir quelque part banal. Il veut rester mystérieux, il veut rester intouchable, insaisissable, mais voilà, la nature ayant horreur du vide, la presse va se saisir de tas de clichés et d'autres informations plus ou moins discutables pour les monter en épingle et créer des rumeurs. L'entourage de Michael n'est d'ailleurs pas le dernier à chercher à en créer. On a envie qu'il ait une image originale, particulière. Lui aussi aime beaucoup s'amuser de cela. On pense à l'histoire du caisson à oxygène, qui était en fait un essai qu'il a fait à l'occasion de l'inauguration d'un service qu'il a financé pour les grands brûlés suite à l'accident Pepsi. On pense aux os d'Elephant Man qu'il aurait voulu récupérer. Bref, pour Michael encore à cette époque, mieux vaut une mauvaise publicité que pas de publicité du tout, mais on sait combien tout cela ne va pas forcément toujours aller dans le bon sens.
40 millions de copies vendues pour son dernier disque qui s'appelait Thriller. Mais ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, il a cherché l'inspiration pour pouvoir réitérer l'exploit. Et aujourd'hui, Michael Jackson revient avec quelque chose de bad. C'est le titre de son nouvel album.
Ça y est, 4 ans après Thriller, son successeur Bad sort le 31 août 1987. Michael Jackson arrivera-t-il à conserver son leadership et les faveurs du public ? C'est la question que tout le monde se pose, d'autant plus qu'un gamin de Minneapolis du nom de Prince a réussi à s'imposer depuis quelques années. Certains journalistes pensent même qu'il peut remplacer le roi de la pop. Alors Michael, est-il toujours autant attendu ? La réponse ne tarde pas à arriver avec le premier single de l'album, un titre plutôt surprenant pour commencer cette promo, puisqu'il s'agit d'une ballade, I Just Can't Stop Loving You, en duo avec Syda Garrett, qui se classe numéro 1. Et ce n'est pas le seul, puisque les 4 singles suivants connaîtront le même destin. L'omniprésence de Michael 4 ans plus tôt n'aura finalement pas eu raison du travail entrepris sur Bad. Même Prince, celui que l'on considère comme son rival, n'arrive pas à l'éclipser. Pourtant, les médias s'amusent à les opposer en évoquant même une animosité entre les deux artistes. Alors qu'en réalité, un duo entre les deux hommes a été envisagé autour du titre phare de l'album. Et oui, le titre Bad devait être un duo avec Prince. Malheureusement pour nous, ça ne va pas se faire, mais le titre sera tout de même numéro 1. Michael va vraiment marquer les esprits avec cette chanson. Comment va-t-il y arriver, Isabelle ?
La chanson Bad est un titre vraiment catchy qui accroche l'auditeur d'emblée. Très rythmique, avec beaucoup de sons électroniques, une belle énergie, une voix vraiment particulière, un message aussi. Et c'est vrai que cette chanson, qui aurait dû être finalement un duo avec Prince, va rester une chanson solo. Beaucoup de rumeurs parlent de cette rivalité entre Michael et Prince. Qu'il y ait une part de vérité dedans, certainement, bien sûr. Les artistes ont tous des points de repère avec lesquels ils se comparent. Les uns vont assister au spectacle des autres, écoutent leurs albums pour savoir ce qu'ils font de bien ou de mieux. Mais il y a quand même aussi une bonne part de légende derrière tout ça. Tout cela n'est pas nouveau, c'est une stratégie de communication qui est quand même bien éprouvée. En tout cas, tout n'est pas vrai et aussi piquant que l'on peut l'imaginer dans cette pseudo-rivalité entre Michael et Prince. Et la chanson Bad va, malgré son absence, être le succès que l'on connaît.
Bad, c'est aussi un court-métrage, une fois de plus, mais qui s'inspire cette fois-ci de faits réels. Et pour raconter cette histoire, Isabelle, Michael va faire appel à des personnes de prestige.
La vidéo, elle, est intéressante parce qu'elle est réalisée par Martin Scorsese. On est à nouveau en face d'un mini-film qui est plutôt long. Alors, on voit dans ce clip Wesley Snipes apparaître, qui finalement prend la place qu'aurait dû avoir Prince s'il avait effectivement participé au projet. L'histoire est intéressante parce qu'elle se superpose à un fait divers qui est l'assassinat d'Edmund Perry, un jeune étudiant noir qui va finalement aller à l'école dans un établissement non ségrégué et qui va se voir reprocher en quelque sorte sa trahison culturelle à son retour. Bon, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte dans la vraie histoire d'Edmund Perry, dont la fin est vraiment tragique, ce qui n'est pas le cas du clip de Bad, mais on voit ici la volonté de Michael de se raccrocher à un message malgré tout. Michael, déjà, ne fait plus appel seulement à des références culturelles ou cinématographiques comme il a pu le faire avec ses vidéos de thriller. Ici, il commence déjà à instiller des références sociales et politiques.
On peut remarquer avec ce clip que Michael a bien changé physiquement depuis Thriller. Avec Bad, il casse son image de gentil garçon pour celle d'un bad boy. La preuve en est avec cette pochette d'album mythique qui va faire beaucoup parler à l'époque.
On va retrouver sur l'album un cliché qui est pris durant le tournage, alors qu'en réalité le projet initial prévoyait un cliché de Greg Gorman, beaucoup plus artistique, beaucoup plus subtil. Là, avec ce cliché de bad boy, avec cette lumière très importante que Sam Emerson place à la demande de Michael sur son visage, parce qu'en plus, cette photo a été prise un soir alors que Michael était fatigué, Michael va vraiment faire parler. Outre l'image plus virile du bad boy, il a quand même ses traits fins, il a quand même ce teint clair, et c'est finalement ça qui va intéresser la presse, malheureusement.
Ce qui est sûr, c'est qu'avec Bad, Michael met le paquet, aussi bien au niveau sonore que visuel, pour cet album. The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Smooth Criminal ou Leave Me Alone illustrent parfaitement sa stratégie pour tenter de battre son propre record.
It is quite different from anything I've ever recorded or I've ever written. It's a bold statement.
C'est très différent de tout ce que j'ai déjà enregistré et écrit. Je vais dire quelque chose de plutôt audacieux, mais je vais essayer de le dire de la bonne façon. Oui, c'est une façon de dire que tu es cool, que tu as raison, que tu es fort. Je dis pas que je suis un criminel dans le mauvais sens du terme.
Michael nous a prévenu d'entrée de jeu. Bad est très différent de Thriller. Qu'est-ce qui fait la force de cet album, Isabelle ?
D'un point de vue stylistique, Bad surfe vraiment sur l'éventail large que proposait déjà Thriller et qui est finalement une véritable signature musico-culturelle chez Michael Jackson. On va retrouver du funk, du R&B, on va retrouver du rock même marqué avec cette fois-ci Dirty Diana, qui ne se limite pas, on va dire, dans l'esthétique rock à simplement un grand solo de Van Halen, mais qui ici donne une large part à la guitare de bout en bout de la chanson. On va retrouver des éléments beaucoup plus world music, avec des sons qui sont des sons climatiques, comme dans Liberian Girl, des vraies capsules sonores, des environnements qui vont donner lieu ensuite à la mise en image par la vidéo. Certaines de ces vidéos vont d'ailleurs être des points d'accroche pour un film, Moonwalker, comme par exemple Leave Me Alone ou Smooth Criminal. Bref, on est vraiment au sommet ici de la carrière de Michael Jackson et de sa créativité.
Michael était attendu au tournant avec Bad. La pression était grande, très grande même. Comment cet album va être accueilli par le public et par les médias ?
L'album va vraiment rencontrer un grand succès puisqu'il va se vendre à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et il reste vraiment encore aujourd'hui l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Il a vraiment été attendu par le public qui attendait une suite effectivement à Thriller. Pour la presse, le fait de succéder à Thriller va engendrer des appréciations déçues et négative. On va reprocher à l'album Bad et aux vidéos, aux musiques, de ne pas atteindre le niveau d'un Thriller ou d'un Beat It.
Aussi étonnant que ça puisse paraître aujourd'hui, Bad est boudé par la profession à l'époque et elle le fait très bien comprendre à Michael. Lors de la cérémonie des Grammy Awards en 1988, l'album ne reçoit qu'un seul prix. Ce soir-là, MJ est en colère et il va s'en servir pour livrer une prestation à couper le souffle sur Man in the Mirror. Le public, lui, est toujours en rendez-vous. Et quand la star annonce vouloir se produire pour sa première tournée en solo, toutes les dates affichent complet. Et c'est le 27 janvier 1989 qui marque la fin du Bad Tour. La série de concerts a généré plus de 125 millions de dollars à travers le monde. C'est un chiffre impressionnant et je vais vous donner un détail supplémentaire. C'est la tournée la plus rentable des années 80 pour un artiste solo. Là encore, Michael ne fait pas les choses à moitié, les fans de la star découvrent un spectacle impressionnant. C'est un aspect qu'on n'avait pas encore abordé dans cette première saison de Destin de Légende, et le Bad Tour est la bonne occasion pour en parler. Michael Jackson sur scène, ça ressemble à quoi, Isabelle ?
Michael sur scène est une véritable bête de scène dans le sens premier et général du terme. C'est vraiment quelqu'un qui se révèle quand il est sur scène et qui montre une autre dimension de lui-même. Sur le Bad Tour, pendant plus d'1h30, sur les vidéos, on le voit chanter et danser en même temps, ce qui est juste surhumain, pour ne pas dire inhumain, techniquement parlant. Chanter et danser sont deux pratiques respiratoires qui sont complètement opposées et qui sont extrêmement dommageables physiquement. Pourtant, Michael parvient à le faire, il le fait. On sait combien ça lui coûtera physiquement à chaque fois de dépenser toute cette énergie. C'est une vraie pile électrique. Et là, on ne parle que de sa prestation, mais si on regarde l'ensemble de la scénographie, avec les effets spéciaux, les pyrotechnies et tous les moments de magie, eh bien Michael, à son échelle, à l'échelle populaire, avec les moyens de son époque, vraiment essaie d'adjoindre tout, le visuel, le sonore, la danse, le chant, la magie, le spectacle. Il arrive vraiment à créer une osmose entre tout ça qui est une grande première, qui est vraiment une pensée que peut-être d'autres ont eue, mais qu'à ce moment-là de l'histoire de la musique, il est le seul à mettre en œuvre. Il se donne les moyens financiers, techniques, il essaie vraiment d'aller au bout des processus créatifs pour donner vie à tout cela.
Michael est tout simplement au sommet de son art. Et la période Bad est la plus prolifique pour lui. Il concrétise plusieurs projets. Il publie une autobiographie, sort un long métrage, part pour sa première tournée en solo et rachète même le catalogue des Beatles. À la fin des années 80, il met un terme à sa collaboration avec Quincy Jones et achète une propriété à Hollywood dans laquelle il va construire son propre monde. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre. À l'aube des années 90, Michael est le seul pour gérer ses affaires. Petit à petit, il façonne un personnage mystérieux qui intrigue de plus en plus les médias. Bientôt, cette image qu'il renvoie aura de lourdes conséquences sur sa vie privée et sa carrière. C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir été avec nous, merci Isabelle pour toutes ces précisions. On se retrouve très vite autour du 20 janvier pour la suite de votre série. Et on va s'intéresser dans cette deuxième partie de saison à l'homme qui se cache derrière le roi de la pop. Ne manquez pas les épisodes suivants. D'ici là, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, partagez ce podcast autour de vous. Et n'oubliez pas, soyez différents, soyez uniques, parce qu'on ne sait jamais, vous avez peut-être un destin de légende entre vos mains. À très vite.